découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Bien, nous allons à présent aborder le premier thème de cette émission. Quel est l'apport de l'habitat dans le développement économique du pays? Vous savez, en RDC, le secteur de l'habitat est presque abandonné par l'État au profit des particuliers. L'État n'offre pas encore des logements sociaux à sa population. La crise des logements est grande et les besoins sont énormes. Et pourtant, le secteur de l'habitat peut en grande partie favoriser le développement économique du pays si l'État s'y investit davantage. Pour en parler, nous recevons Monsieur Apollinaire Kitenge, il est architecte. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, nous parlons aujourd'hui de l'apport de l'habitat dans les développements économiques du pays. Pouvez-vous nous en dire davantage?
Oui, et merci de m'avoir invité encore une fois, et tout en souhaitant un meilleur pour vos auditeurs et vous-même.
Merci.
Le secteur de l'habitat est pratiquement complexe, et qu'on peut l'imaginer. Et vous savez, l'habitat englobe presque tout l'ensemble de infrastructures habitables ou non habitables. À fortiori, on peut aussi parler de tout ce qui est mobilier urbain, de tout ce qui est comme voirie. C'est dans l'ensemble de l'habitat. Mmh. Et on peut aussi dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'habitat non habitable, si permettez-moi les termes.
Et c'est l'habitat non habitable.
Non habitable.
Ok.
Il y a aussi là où on trouve par exemple les habitations, où on peut dire habitat habitable, si vous me permettez les termes.
Mmh. Mais généralement, quand on parle de l'habitat, on pense directement aux maisons.
On parle directement aux maisons. Or, il y a aussi autre chose, hein, les mobiliers urbains, les équipements communautaires et tout ce qui est sous-jacent.
Quel genre d'équipements communautaires, par exemple?
Vous savez, par exemple, les palais du peuple. C'est un équipement socio-communautaire. Vous avez les hôpitaux, vous avez les écoles, vous avez les haltes routières, vous avez aussi des sites touristiques, comme et vous avez aussi les eaux, hein, vous avez aussi les jardins botaniques. Mm-hmm. C'est aussi des équipements qui affluent beaucoup de gens, mais non habitables, mais qui sont visités par les gens.
Alors, en quoi est-ce que c'est l'habitat peut contribuer au développement économique du pays?
Je pourrais vous dire que l'habitat peut contribuer à plusieurs secteurs, mais peut-être on ne saura pas tout évoquer ici. On peut prendre l'exemple 2 ou 3. L'habitat peut contribuer au développement d'un secteur. Vous voyez, par exemple, si on fait un lotissement en bonne et due forme, et dans ces lotissements-là, on prévoit certains équipements, on prévoit les écoles, on prévoit une bonne voirie, on prévoit aussi des centres socioculturels. Vous voyez, ce sont des ensembles qui peuvent aussi favoriser un développement. Le développement n'est pas aussi tellement structurel, mais aussi mental. Vous voyez aussi, si quelqu'un peut quitter Kimbanseke pour venir acheter une aiguille au niveau du marché central, vous voyez, déjà, ça freine un élan de développement d'un peuple, sur le plan mental, sur le plan aussi socio-économique. Mais moi, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur le plan foncier. Mmh. Comment on peut parler que l'habitat peut contribuer au développement sur le plan économique? Si on va sur le plan foncier, on voit les lotissements ou les habitations qui peuvent être mises à la disposition d'une population. Bon, vous avez parlé qu'il y a carence de ces infrastructures, mais je vous dirais aussi que ce n'est pas seulement l'État qui peut être responsable, mais l'État peut mettre aussi des facilités et des moyens pour donner aux opérateurs économiques privés pour avoir cet élan de construction ou bien de matérialiser certaines infrastructures ou bien les habitations ou les logements. Si vous allez sur d'autres sièges, ce n'est pas seulement l'État, mais l'État favorise. Par exemple, vous avez 10 millions de personnes ou bien 5 millions qui ont besoin de logements. L'État favorise de manière à ce que les investisseurs ou les promoteurs immobiliers, chaque année, pendant 10 ans, chaque année, ils vont faire 1 million de logements. 1 million de logements et 1 million de logements. Dans 10 ans, vous allez résorber les 10 millions, mais il y aura aussi un effet induit parce que les 10 millions ne vont pas rester constants. Il y aura
À l'époque, on parlait de l'Office Lonel, Office National des Logements. Comment ça se passait à l'époque aujourd'hui, si on essaie de comparer? Est-ce qu'on a évolué ou bien les choses n'ont pas bien marché?
Non, on n'a pas évolué. On est même plus, on est allé trop loin, même plus à l'époque rudimentaire. Parce que, à l'époque, il y avait quand même, l'État prenait en charge. Hein, mais avec la croissance démographique, je crois que l'État a abandonné toute
la responsabilité. Et comment se faisait l'État construisait des maisons et on donnait à crédit? On les donnait à crédit?
Oui, c'est-à-dire l'État demandait des financements. Il y avait des financements qui pouvaient être donnés. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y a un hôpital ici qui a été conçu par une loterie coloniale. C'est-à-dire l'État peut demander des fonds, soit des banques, soit d'autres capitaux qui peuvent être investis dans ce sens. Et on a des habitations. Par après, il y a la population qui a accès. On donnait beaucoup plus. L'avantage à ceux-là qui ont du travail, parce que sachant que ils vont continuer à payer après un certain temps et ils deviennent propriétaires. Voilà. Mais il y a aussi un secteur, quand je parle beaucoup plus du développement, ce qui peut contribuer beaucoup plus à c'est les revenus fonciers, ces habitats-là. Peut-être pendant cette émission, je vais vous donner quelques chiffres qui ne paraîtront pas comme de la magie, et qui n'apparaîtront pas comme, on l'a dit toujours, on a la croissance à 3 chiffres, à 4 chiffres. Donc, ce sont des chiffres qui, même un enfant de l'école primaire, quand vous lui mettez sur les tableaux, il vous dit que non, le pays peut avoir un développement à partir de l'habitat.
Comment? Pouvez-vous nous expliquer comment le secteur foncier peut contribuer au développement?
Je ne prends pas tous les pays, mais je prends l'exemple de la province de Kinshasa. Pas des statistiques fiables, mais on peut s'attarder à ce qui est annoncé. Kinshasa a au moins 10 millions d'habitants, si on peut prendre ainsi. Mais quand on fait le calcul sur le plan de l'habitat, on peut prendre 20 à 30%. Ce qui fait que si on rentre sur les 20% dans les 10 millions, c'est-à-dire on a 20 millions d'infrastructures d'habitat, ou bien des maisons, ou bien de structures qui doivent payer la taxe foncière, ou bien le revenu foncier. Alors, dans ces 10 millions-là, dans ces 20 millions, s'il arrivait qu'on donne la taxe même de 10 dollars, ou bien de 9 000 francs par mois. Donc, s'il faut prendre par année, on a au moins 120 dollars par chaque maison. Alors, c'est pas seulement les habitations où quelqu'un est là. Il y a aussi, j'ajoute qu'il y a des bureaux où on paye, chaque bureau doit payer. Mais je prends ce montant-là juste et minimal. Parce qu'on le paye en fonction de la superficie, de l'occupation. Alors, on peut arriver facilement.
Il y a d'ailleurs l'impôt foncier. On paye, je crois, chaque propriétaire de parcelle paye un impôt à l'État.
Bien sûr, payer un impôt. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les revenus locatifs.
Locatif, oui.
Voilà. Alors, j'ai pris juste un petit chiffre de 2 millions des équipements ou des infrastructures. S'ils payent 10 dollars par mois, donc chaque mois, la ville peut avoir 20 millions de dollars. Et dans ces 20 millions de dollars, on peut rétrocéder, on paye au gouvernement les 60% et la ville a au moins les 40%. C'est-à-dire, la ville a au moins 8 millions de dollars par mois, si au moins on payait tous ces fois. On peut recouvrir 8 millions de dollars. Alors, on peut revenir, la ville aussi peut rétrocéder aux communes, rétrocéder aussi aux communes les 20%. Donc, la ville peut rester avec 6 400 000 dollars. Alors, si vous prenez les 6 400 000 dollars fois 12 mois, vous avez presque 76 800 000 dollars. Alors, si vous avez ces 76 800 millions de dollars, vous savez, il y a toujours un mensonge qui s'est érigé en vérité ici dans notre pays.
Lequel?
C'est-à-dire qu'on nous dit qu'un kilomètre de route vaut 1 million de dollars. Là où j'ai dit aussi, il y a certains journalistes, on n'a pas aussi assez d'investigations qui ne sont jamais allés dans des cabinets ou bien dans des sociétés qui construisent des routes pour savoir une route, un kilomètre de route coûte combien. Et c'est quelle route, c'est quel gabarit, c'est quelle emprise.
Souvent on entend un kilomètre.
On entend un kilomètre, c'est 1 million de dollars. C'est ce que je vous dis, c'est un mensonge qui s'est érigé en vérité. On n'a jamais dit combien ça coûte, c'est quel type de gabarit. Alors, dans ce 76 millions de dollars, c'est-à-dire que chaque année, la ville peut faire 76 kilomètres. Ce sont des chiffres que je suis en train de vous donner, à moins que je sois contredit.
Oui.
Si on nous dit que c'est 1 kilomètre vaut 1 million de dollars. Et là, au moins, dans ce 116 millions-là, si on rétrocède encore le 20% pour le fonctionnement de la ville, donc on peut avoir 61 millions 400 000 dollars par année. Ce qui fait qu'on peut avoir 60 kilomètres par année. Mettez par 5 ans. Donc la ville, c'est-à-dire à un mandat, on peut avoir toute la ville ici asphaltée avec des routes et des équipements qu'il faut. Ça, je prends seulement un seul secteur des taxes foncières. Mais vous savez aussi, il y a d'autres équipements, tous ces panneaux publicitaires. Vous allez dans d'autres villes, ces gens-là payent à la ville avant d'implanter les panneaux publicitaires, les caractères, la grandeur.
Je crois que même ici, c'est pareil.
Je crois, je l'imagine, hein, mais je n'ai pas de preuves. Hein, il faut pas que je vexe, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Mmh. Alors, voilà un peu ce qui peut contribuer au développement d'un coin à l'autre. Sans pour autant voir si on peut, je prends seulement ces mêmes secteurs pour faire les écoles, on peut réduire en disant même 30 millions. Mmh. Donc on peut avoir 30 kilomètres chaque année. Mais c'est un peu étonnant que vous voyez, il y a des tronçons qui sont à 500 mètres, qui ont déjà fait 10 ans ici dans la ville, n'ont jamais connu ni réparation, ni... voilà un peu, je vous dis.
Donc, si l'État s'investit davantage dans l'habitat pour construire des maisons, oui. Il y aura les revenus locatifs, l'impôt foncier, cet argent, on peut s'en servir pour construire d'autres infrastructures.
Des infrastructures, soit des routes, soit des écoles, soit aussi, pourquoi pas, des parcs attractifs pour la population, voilà.
Tout simplement,
même l'hôtel de ville.
Tout simplement à partir de
la taxe foncière. Vous n'avez pas besoin de l'uranium à Kinshasa ou bien du pétrole pour en faire. Vous voyez, les chiffres ne sont pas tant.
D'accord. Nous avons un premier auditeur en ligne, Mavé Kisambika. Il nous appelle des Kalanga de la province du Kasaï occidental. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-63-94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Quel est l'apport de l'habitat dans le développement économique du pays? Mavé Kisambika, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je vous dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi ainsi qu'à l'invité qui est sur le plateau pour le moment.
On vous écoute.
Merci, je vous dis une simple question à poser à notre invité. Je voudrais savoir, par rapport à ce qu'il a fait comme observation et constat, quelle peut être la politique incitative que les autorités peuvent mettre sur pied afin de motiver les investisseurs particuliers pouvant permettre la relance économique en RDC quand bien même l'État est fragile dans ce secteur. Voilà.
Merci. Comment motiver les investisseurs, les particuliers, Monsieur Apollinaire Kitenge?
Oui, avant que je ne réponde à cette question, je voudrais un peu aussi, pour que les gens comprennent, que je n'ai pas dit que la ville perçoit ces taxes-là et ces chiffres-là aujourd'hui, pour qu'on ne puisse pas faire de l'amalgame. J'ai dit si l'État mettait des structures fiables pour percevoir ces taxes, voilà ce qu'il devait faire. Mmh. Ok. Et la politique est pour donner l'incitation aux investisseurs pour faire la relance de l'économie. Mon cher ami, et vous savez, sous d'autres essais, on appelle ce qu'on peut appeler le dumping. On peut donner la possibilité à ces investisseurs. Les investisseurs ne peuvent pas seulement être les étrangers, même si les locaux. Je vous donne un exemple. Un jeune ingénieur qui termine ses études dans une école ici, soit de construction ou soit de route, si l'État peut lui donner un crédit de 600 000 dollars ou 500 000, pas en cash, mais avec les équipements, on lui dit allez à Musoshi ou bien à Kabeakamanga, vous allez nous réhabiliter des routes en terre. C'est déjà une façon d'inciter les investisseurs à l'économie et l'État contrôle ce que sera revenu et ce qu'il va verser à l'État. Mmh. Il y a aussi la possibilité, vous savez, il y a les codes d'investissement. Si on peut alléger certaines conditions qui peuvent favoriser, pas qu'un investisseur vienne avec ses 10 millions de dollars, quelqu'un vous dit non, donnez-moi aussi 2 millions. là, ça freine directement les lampes pour quelqu'un qui veut investir. Si on met des moyens en place et des suivis, je crois que ça peut permettre à booster l'économie.
Mais je me rappelle, à un certain moment, il y avait des investisseurs qui venaient avec des projets des préfabriqués, par exemple. On a testé à gauche, à droite, et après, plus rien. On n'en a plus parlé.
Bon, vous savez, il y a aussi des gens qui viennent comme des commerçants. Hein. Il faut pas tomber sur tout le monde qui amène son produit. Hein. Il y a des gens qui peuvent venir vous rafler des millions et 10 ans après, vous avez des maisons qui sont des châteaux de cartes hein, qui peuvent disparaître. Mais il y en a aussi ceux-là qui viennent parce que ce n'est pas par les beaux yeux des Congolais qui viennent. Ils viennent chercher de l'argent. Il faut qu'il y ait aussi des structures pour contrôler ce qu'ils vont faire et aussi capable.
Voilà. Bien, nous avons en ligne un auditeur de Kinshasa, Jérôme Sekana. Nous parlons de l'apport de l'habitat dans le développement économique du pays. Jérôme, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capim et le meilleur à tout le monde.
Merci.
Je voulais d'abord compléter ce que disait tout à l'heure notre invité en apportant quelques petites précisions. L'impôt sur les revenus locatifs, tout comme l'impôt foncier, ont été rétrocédés en totalité aux entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire aux provinces. Cela veut dire que tout ce que le gouvernement provincial peut mobiliser comme recette en ce qui concerne l'impôt foncier, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif, doit être versé en totalité dans la caisse
du
gouvernement provincial. Alors ça c'est la première précision. La deuxième précision c'est que il y a des problèmes au niveau de la maximisation des recettes, non seulement au niveau du pays mais également au niveau des provinces, parce que on dirait la maximisation des recettes et les cadets des soucis de nos dirigeants. Il faut nécessairement commencer par l'identification des contribuables. Nous avons au niveau national une réforme très importante qui est négligée parce que l'administration fiscale n'a pas les moyens de sa politique pour le faire, c'est l'identifiant fiscal unique, l'UNIF. Et ça doit permettre de recenser d'une manière exhaustive les contribuables. Qui fait quoi? Et c'est ça la première étape. Même la ville de Kinshasa devrait aider l'administration fiscale à faire ce recensement-là pour qu'on arrive à dénicher qui peut faire quoi, qui fait quoi. Ainsi, lorsqu'on connaît, on essaie de rentrer dans le formel tous ceux qui œuvrent dans l'informel, eh bien, l'assiette devient lisible et facile à mobiliser. Donc, ce sont les deux précisions que je voulais donner. Il y a des faiblesses aussi au niveau de la DGRK. La DGRK, sincèrement, il y a eu un mauvais recrutement, la mise à niveau des agents, et puis l'investissement, parce que l'argent appelle l'argent. On ne peut pas attendre que la DGRK mobilise les ressources tant qu'on ne donne le moyen à ceux qui travaillent là-bas pour qu'ils puissent maximiser les recettes. Donc voilà la question que je voulais donner à ce stade d'échange.
Merci beaucoup Jérôme Sekana. Pichu Chimanga, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous parlons
Je suis tout à fait d'accord avec l'expert, mais ce que je trouve pas normal et que je peux pas encourager, je vois comme si l'invité ne parle que de la théorie, il n'a pas tenu compte de la réalité socio-économique de la RDC. Parce que pour parler de l'apport de l'habitant, il faut tenir compte aussi de la réalité de chaque pays. Parce que, par exemple, chez nous, il faut tenir compte des PIB et des PNB. Parce qu'il faut voir les revenus par habitant des Congolais ne permet pas à ce que la RDC puisse se mettre d'abord à parler du développement, de l'influence de l'apport économique, de l'apport de l'habitant dans l'économie. Mais de ce qu'il donne là, il a tout à fait raison et je ne le contredis pas. Mais à cela, je peux lui poser une des questions.
Rapidement.
Quel peut être l'apport de l'habitant dans un pays où les salaires d'un employé est de 50 000 francs par mois? Merci beaucoup.
Bien, merci. Apollinaire Kitenge.
Merci beaucoup, mon ami Chimanga. Mais je voudrais un peu remercier notre ami Jérôme Sekana pour cet éclaircissement. Je crois que tout ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire la ville peut avoir beaucoup d'argent plus que ce que j'ai évoqué. Donc, peut avoir plus de 100 millions de dollars par année. Mais je voudrais un peu aussi ajouter à ce que Jérôme a dit. Le recensement, si l'État à les restes. Comment l'État peut être faible pour avoir des moyens,
maximiser
les recettes et contrôler les contribuables? Parce qu'on l'appelle l'État. C'est-à-dire l'État doit avoir les moyens et voir des personnes capables. Bon, peut-être quand il a parlé de recrutement, vous savez comment ça se passe dans nos pays africains. On prend un neveu, un cousin, et puis... mais je ne doute pas que ces gens qui sont au service des assiettes fiscales sont tous médiocres. Il y a des gens aussi capables. Mais les combles, c'est quoi dans des pays africains? Vous savez, on peut récolter
cet impôt foncier, élargir le revenu locatif
et agrandir l'assiette fiscale. Mais qu'est-ce qui n'est pas étonnant? Après demain, vous passez sur une rue, vous trouvez un immeuble qui monte, on vous dit que c'est un agent percepteur de cet impôt qui construit cet immeuble. Vous avez déjà vu, ça se passe chez nous en Afrique. Et cet argent devait servir exactement pour l'élan de l'économie ou bien du développement d'un pays. C'est ça que Jérôme aussi devait savoir. Ce n'est pas seulement que l'État est incapable, mais quand cet argent, même si minime soit-il, entre dans l'assiette fiscale, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il ne faut pas avoir beaucoup pour en faire. Il faut commencer par ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on vous a déjà donné les chiffres depuis qu'on a commencé à percevoir cette taxe? Qu'est-ce qu'on en a? Sans pour autant entrer dans les justifications de ce qu'on en fait avec. Alors, on ne peut pas faire un petit pont qui fait 6 ans. On dit que c'est avec cet argent qu'on a récolté des impôts fiscaux, qu'on a fait un petit pont de 3 mètres à 4 mètres. C'est pratiquement injustifiable. C'est ce que je disais aussi, qu'il faut qu'il y ait des journalistes d'investigation qui peuvent publier, comme il ne faut pas seulement nous dire que non, tel a dit, n'est pas changé l'article 120, mais il faut voir aussi quand on a fait un petit pont de 6 mètres, qu'on vous dise combien ça a coûté, et avoir des experts qui peuvent vous donner aussi la contradiction à ces chiffres-là. Voilà, je passe à ce stade, je réponds à notre ami Chimanga, qu'avec notre habitat, avec les fonctionnaires qui reçoivent 50 000 francs par mois, qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui reçoit 50 000 francs par mois. Ils ont aussi des primes qui dépassent au moins les 50 000 francs. Et je suis rentré à la baisse d'un chiffre de 10 $ si on pouvait contribuer mensuellement. Mais mon cher ami, les mêmes fonctionnaires là qui prend ces 50 000 francs, mais vous les trouvez sur le coin de la rue en train de prendre 10 bouteilles par jour de la bière. Où est-ce qu'il a eu de l'argent pour acheter 10 bouteilles de la bière, s'il s'est contenté seulement de son salaire? C'est un problème de responsabilité aussi, et l'État ne peut pas regarder tout ça. Il doit mettre aussi cette politique de manière à ce que, vous voyez, aujourd'hui quand on met l'argent d'un fonctionnaire à la banque, on prend l'impôt des fois à la source, c'est ce que je sache, c'est l'impôt sur les revenus de salaire. On ne va plus aller à l'entreprise pour aller récolter cet argent ou bien à la société, mais c'est à la source qu'on prend cet impôt.
Mais comme il y a une crise des logements dans notre pays, est-ce que cet argent-là, cet impôt-là, qu'on récolte peut servir à construire d'autres maisons, à construire des maisons d'habitation?
Bon, c'est sûr qu'il y a crise de logement, mais on peut faire avec ce qu'il y a. Vous savez qu'il y a une parcelle où il y a 10 locataires. S'il y a 10 locataires, donc chaque locataire doit payer. Si les pays sont revenus locatifs, mais les propriétaires sont loyers. Mais le propriétaire doit payer la taxe foncière par rapport à la grandeur de sa parcelle. Voilà. Mais vous n'allez pas dire qu'on n'a pas de maison partout. La ville est en train de s'étendre en tache d'huile. Quand vous allez jusqu'à Maloko, c'est toujours la ville. Mais comment quelqu'un est arrivé à construire sa maison avec des tôles, tout ça, qu'il manque même 1 000 francs pour contribuer? J'ai pris ces chiffres-là, c'est juste un titre exemplatif. On peut réduire même à 2 $. On aura toujours de l'argent. Voilà.
Mais cet argent peut aider à construire,
à réhabiliter les routes,
à construire d'autres équipements sociaux de base.
J'ai pris seulement les seuls secteurs, mais l'État en a beaucoup. Voilà.
D'accord. Victor Ingopa nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, JDN. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour, monsieur.
Je voudrais aussi apporter ma petite contribution concernant les sujets. Je voudrais dire, aujourd'hui, actuellement, la population n'a pas cette conscience-là de contribuer au développement du pays. Je voulais dire, s'il y avait moyen qu'on puisse interpeller la conscience de tout le monde. Parce que la population ne connaît pas comment il peut contribuer au développement. L'habitat venait de dire vraiment des montants que moi-même, ça m'a surpris. Je ne savais pas que ça pouvait être ainsi. Mais vous allez remarquer que nous avons une grande population qui n'a pas la conscience de la contribution des impôts. Vous savez, ici à Kananga, on avait créé, un office qu'on appelait des Jacques Coq. Des Jacques Coq. Pour récolter les impôts sur les revenus locatifs et sur les revenus peut-être fonciers. Mais il faut savoir dans quelle manière ces agents-là étaient accueillis par des maisons. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui entre, qui vous parle des revenus sur, donc, les impôts, impôts sur le revenu locatif, donc, vous voyez que quelqu'un là, donc, il n'a pas réellement, c'est sa première fois d'attendre parler de ce mot-là, revenu sur, impôts sur le revenu locatif. Alors, je voudrais dire, c'est mieux quand même d'interpeller ça, d'appeler la conscience de tout le monde, que tout le monde prenne conscience de dire, moi aussi je suis un habitant congolais, je dois aussi contribuer au développement du pays. C'est ça, un mot au moins. Alors je vais citer par une petite question, je voudrais demander à l'architecte, est-ce qu'il est en collaboration avec les DGI, les directions générales des impôts pour tout le pays, est-ce qu'il est en communication avec eux, pour nous donner quand même la statistique, les statistiques concernant quand même ceux-là qui contribuent avec leurs impôts sur les revenus locatifs. Merci, Jody.
D'accord. Et Apollinaire Kitenge.
Merci, mon cher ami Victor, pour votre contribution. Mais je voudrais vous dire, vous savez, quand l'État et la population, il y a ce qu'on appelle la relation win-win. C'est-à-dire, chacun gagne de l'autre côté. Gagnant-gagnant. C'est-à-dire, si l'État perçoit cet argent et investit où la population voit que ce que l'État est en train de faire est palpable, la population sera incitée à donner cet argent. Mmh. Vous voyez, si la population n'avait pas...
Ça va recréer la confiance.
Va recréer la confiance. Non, non, c'est-à-dire que dans ces mandats de cette année, on aura des routes. Pourquoi ne pas faire comme les autres infos avec la politique d'une municipalisation prolongée ou avancée? C'est-à-dire, quand l'État donne cet argent, la population contribue, et demain après demain, il voit qu'il n'avait pas de l'eau, il n'avait pas l'accès à la route, il n'avait pas accès aux soins, et cela lui arrive... C'est-à-dire, il y a aussi la pédagogie que l'État doit faire. Mais mon cher ami, si vous contribuez cet argent, entre guillemets, vous voyez le fils ou bien la cousine de cet argent percepté de cet impôt avec un véhicule qui vous coûte 40 000 dollars, vous allez vous poser la question, c'est notre argent que nous donnons? Et là, la population n'aura pas confiance. Et il va pratiquement se résigner et ne pas contribuer.
Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de bailleurs, d'ailleurs, qui ne payent pas les...
qui ne payent pas. Et on va se contenter de nous les petits.
Locatifs.
Voilà, on va se contenter de nous les petits, les moins gagnants pour... pour ceux qui l'a parlé, si je suis en contact avec toutes ces directions qui... vous savez qu'avoir les éléments dans de telles institutions n'est pas toujours facile. Vous n'avez pas accès à cela, mais nous essayons de faire des recherches en tant qu'un scientifique, à faire des recoupements et qu'on arrive à avoir certaines données.
Voilà, quelle est la force de l'habitat dans le développement économique? On retient que l'habitat peut apporter beaucoup à l'État et pour développer les équipements sociaux des bases. Mais est-ce que vous avez des exemples des autres pays où c'est l'impôt foncier, on a développé des villes tout simplement grâce à l'habitat?
Bien sûr. Vous voulez que je cite quel pays? On nous a fait grâce de visiter certains pays. Je peux vous parler des États-Unis. Je peux vous donner juste un exemple. Un ami m'a logé chez lui, c'est sa maison qu'il a achetée. Mais il paye son impôt foncier à 400 dollars le mois. Vous comprenez?
Mmh.
À 400 dollars le mois, c'est la maison qui lui appartient. Et cet argent-là est investi, est recueilli par l'État pour faire des équipements nécessaires. Je ne parle pas les maisons, je prends aussi la route. C'est aussi un équipement ce qui peut contribuer à la richesse. Vous savez, nous avons des péages ici chez nous. Depuis qu'on a fait les péages de Kinshasa-Bakongo, on peut se demander qu'est-ce que ça a déjà fait. Quand vous êtes à Boma pour atteindre Matadi, ça devient un parcours de combattants. Mais je vous dis, j'ai vu une route où on a mis les péages, pas en ouvrant la barrière, mais c'est avec des systèmes de caméras, où un véhicule qui passe n'a que 25 cents de taxes à chaque passage du véhicule. Donc, s'il y a 1 million de véhicules qui passent par jour, ou bien 500 000, ou bien 100 000, vous savez combien ça peut entrer dans la caisse de l'État. Et ça, ce n'est pas que quelqu'un va déposer, donne à la main de quelqu'un.
L'argent,
on vous envoie par mail. C'est que vous devez aller payer à l'État. Et vous devez nécessairement payer. Si vous n'avez pas payé, vous devez avoir un officier de justice, soit vous assigner, vous payez des amendes. Mmh. C'est-à-dire, la personne sait que non, on a conçu cette route, c'est avec l'argent que nous sommes en train de payer comme impôt. Voilà. Je prends l'exemple des États-Unis, je peux prendre l'exemple de la France, je peux prendre l'exemple de la Hongrie, je peux prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous avez ce qu'on appelle les highways, les routes, les freeways. C'est-à-dire, on est tenté de construire, c'est avec l'argent des contribuables. Vous êtes dans un État comme le Texas. Ce n'est que l'industrie et parfois et le pétrole. Ils n'ont pas l'inarénium, ils n'ont pas les cobalt, ils n'ont pas les CC. Et l'industrie, c'est quoi? Il y a les usines, c'est qu'on fabrique. On ne peut pas s'égaler à eux. S'il faut que je descende même en Afrique, vous avez le Maroc. vous savez, le Maroc, il y a une société d'autoroute marocaine. Et ça paye de l'argent, ça paye des millions. Vous voyez, c'est juste un seul secteur qui peut booster à l'économie ou au développement d'un pays. Uniquement par des routes. Voilà.
Uniquement par des routes. Donc on peut avoir des revenus, suffisamment de revenus par l'habitat, avec l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. On peut, l'État peut se faire de l'argent et développer le pays. On vous écoute?
Oui, bien sûr. Vous voyez, je donne l'exemple de ce, qui est, ce qu'on a fait au niveau du Pépinière à Bandal. En face.
Si c'est ce qu'on appelle les logements sociaux.
Bien sûr, c'est sociaux. Si aujourd'hui, un agent ou bien un agent qui travaille à la banque a au moins ses 2000 dollars par mois et on lui donne la maison à 600 ou à 700 dollars, ça, il peut y accéder et être dans de bonnes conditions. Et dans ces 600 dollars qu'il paye au revenu, s'il y a un 20% qui va aller, ça dit qu'il donne ses 120 dollars comme taxe qui revient à l'État. Et il ne faut pas voir ces mains bandales. Si on faisait la multiplication des sous-sols, pourquoi on a les anciens pigeonniers qu'on a à Matete ou bien à Bandal, les gens ont accédé. Mais il ne faut plus faire des choses comme ça, comme des camps, des exilés ou quoi. Mais on peut faire des habitations.
Les maisons de Lemba,
Matete,
de Bandal,
oui, bien sûr. Oui. Donc c'est un exemple qu'il
faut
suivre.
Il me semble que c'était des maisons pas pour une grande famille, une grande taille, une famille qui a une grande taille, mais actuellement vous retrouvez 7, 8, voire même plus de personnes dedans.
Bon, à l'époque où était conçu, on voyait ce qui est comme taille de ménage, et puis c'était conçu comme des maisons des indigènes, vous comprenez un peu les mots. C'est indigène, on les considère comme les gens, les secondes zones. Mais il n'est pas oublié, je vais donner l'exemple aussi, qui n'est pas du tout, qui est du tout à souhaiter. Vous voyez, le premier ministre du Congo, je crois qu'il a décidé de faire les quartiers du Royal comme siège des institutions, en construisant un immeuble. Et en réhabilitant aussi les autres vieilles bâtisses qui étaient des ministères de l'Habitat. De l'Abré,
oui.
Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent inciter, si cette politique peut contribuer au développement, pas seulement au Royal, on peut faire partout ailleurs. Hein, les millions de l'argent, ce n'est pas que ça tombe le même jour à l'assiette de l'État et puis on investit. On peut avoir des crédits à d'autres banques ou bien des personnes qui peuvent investir dans ce sens. Voilà.
Bien, Apollinaire Kitenge, architecte, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour parler de l'apport de l'habitat dans le développement économique. À la prochaine.
Merci, Jody.
Au capitaine.